Mercredi 22 avril 2020, il vient d'être 18h, le journal en français avec Rafika Taher. Au sommaire aujourd'hui, de nouveaux signes du coronavirus sont apparus et s'ajoutent à ceux déjà connus. Des détails dans ce journal avec un spécialiste. 9 points de plus pour le Niger dans le classement mondial pour la liberté de la presse 2020 de RSF, soit 57e. Peut mieux faire selon un journaliste communicateur. Dans le volet magazine de ce soir, vous aurez un reportage sur la relation des jeunes avant le mariage et le mariage des enfants au Niger. Au Niger, à la date du 21 avril 2020, 657 sujets sont déclarés positifs au Covid-19. Hier soir, le ministère de la Santé a annoncé 2 nouveaux cas positifs sur 16 testés. Il s'agit d'un cas à Niamey et un autre à Tillabéri. Selon les autorités sanitaires, parmi les personnes infectées au Covid-19, actuellement 510 sont en cours de traitement, 127 sont sortis guéris et 20 sont décédés. Rhume banal, fièvre, toux. En plus des signes connus du Covid-19, depuis quelque temps, d'autres signes apparaissent chez les patients souffrant du coronavirus. Explication avec le professeur Adehosi Eric, médecin interne chef de département de médecine à l'hôpital général de référence de Niamey, au micro de Diallo Maria Makenda.
Les manifestations, ça peut aller d'absence de signes, comme j'ai dit, les porteurs asymptomatiques, à des formes très graves où la personne en détresse respiratoire, en détresse d'autres organes, c'est-à-dire qu'il étouffe, il suffoque, il a de la fièvre, on est obligé de lui mettre de l'oxygène et même faire d'autres mesures plus importantes que l'oxygène pour pouvoir le sauver. Et depuis quelque temps, il y a quand même des signes qui sont en train d'apparaître. La perte de l'odorat, ce que dans notre jargon on appelle anosmie, c'est-à-dire que la personne ne sent pas le parfum, ne sent pas les mauvaises odeurs. Il y a aussi un signe qui est en train d'apparaître aussi, qu'on commence à voir chez nos patients, c'est ce qu'on appelle la gueusie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût. Vous pouvez lui donner du sucre, il ne va pas sentir qu'il a pris du sucre. Il peut manger du piment sur la langue, il ne va pas sentir le goût. D'accord, ça, ce sont des signes maintenant qui nous orientent un peu plus vers la maladie.
Une cinquantaine, c'est le nombre de personnes arrêtées après les manifestations vendredi dernier d'une partie de la population de la commune de Serkin Haoussa dans le département de Mayayi, région de Maradi. Selon le maire Saleh Amadou, le calme est revenu et la police poursuit les investigations. Il est au téléphone avec Mohamed Maman.
Il y a des gens qui font partie de ce malheureux événement qui n'ont pas été pris jusqu'à présent. Maintenant, je suis avec le commissaire. On poursuit l'enquête afin que tous ceux qui ont de la même vie soient arrêtés.
Nous savons que déjà le vendredi, il y a une vingtaine de personnes qui sont arrêtées. Et ces personnes sont toujours en garde à vue ou bien relâchées?
Oui, ces personnes sont toujours là-bas, sont arrêtées. Puisque à la date d'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de personnes qui sont arrêtées. On a fait toute la situation des dégâts, mais le dégât est énorme.
C'est la première fois que les gens se soulèvent comme ça, monsieur le maire, dans votre commune?
C'est pas la première fois que se sont levés, mais le plus catastrophique, c'est ce mouvement-là. Pour le vendredi prochain, on va prendre des nouvelles dispositions pour que cela ne se produise plus.
Pour rappel, une partie de la population de cette commune s'est soulevée brutalement contre la mesure d'interdiction de prière du vendredi et des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Le Niger gagne 9 points dans le classement mondial pour la liberté de la presse 2020 de l'ONG Reporters sans frontières. Selon Lawel Salaou Ismaël, journaliste communicateur, le Niger, classé 57e pays sur 180, cette année pourrait encore mieux faire. Il est au micro de Nafisa Adam.
Le Niger jouit d'un cadre juridique, législatif et réglementaire propice à l'exercice de la liberté de la presse. Dans la pratique, il y a quelques difficultés de mise en œuvre. Dans tous les pays du monde, les pouvoirs sont toujours tentés de remettre en cause les acquis. Il est vrai qu'au Niger, il y a non seulement la garantie des textes, mais il y a aussi une volonté politique marquée des autorités politiques à accompagner le processus. Alors, ici, ce qui a valu au Niger ce classement-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'exaction sur les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Également, qu'il n'y ait pas de journalistes qui soient en prison. Mais il est évident que dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre, aussi il y a une insécurité sanitaire liée à cette pandémie du Covid-19. Il y a quelques entraves pour les journalistes et qui sont prises en compte dans le classement. Le Niger pouvait faire mieux, à mon avis. La liberté de presse aujourd'hui se porte bien. On ne peut être que satisfait, mais on doit continuer à la renforcer.
Albert Ferral, ancien conservateur du musée national Boubou Hamma de Niamey, a été rappelé à Dieu hier soir à Niamey. Selon l'administration du musée national, Ferral était enseignant de carrière et auteur de plusieurs publications et peintre dont La misère trônée. Albert Ferral a été détaché au musée comme assistant au conservateur Pablo Toussé, puis nommé conservateur après le coup d'état du général Sénie Koundié en 1974, poste qu'il avait occupé jusqu'en 1990. Il s'est éteint à l'âge de 84 ans à Niamey, a précisé la même source. Autre note nécrologique, l'homme d'affaires Zak Ojibo, connu sous le nom de Zakaï, est décédé ce matin, a annoncé une source à l'Assemblée nationale du Niger. Zakaï a siégé au Parlement nigérien sous la bannière de plusieurs partis politiques. Dans la région de Tillabéri, après l'attaque des individus armés non identifiés sur une position militaire nigérienne, le 3 avril à Tamalaulaou, attaque qui a été repoussée, les mêmes individus sont revenus le lendemain pour intimer à la population de quitter le village. Arrivés à Abala, ses habitants racontent leur calvaire.
Les hommes armés sont venus dans notre village et nous ont tabassés. C'est pourquoi nous avons fui pour venir ici à Abala, laissant tous nos biens derrière nous. Nous avons besoin de la protection de l'État pour que nous puissions vivre tranquillement chez nous.
Ça s'est passé devant nous. Ils nous ont fait déplacer pendant la nuit pour qu'ils ne viennent pas nous surprendre. Ce sont nos connaissances qui nous donnent un peu à manger et à boire. On n'a pas d'argent pour en payer.
Nous venons du village de Agajenei. Aussitôt après la fin du combat, grands et petits, personne n'a passé la nuit dans le village. Tout le monde a quitté. Nous sommes venus à pied et les mains vides. Par solidarité, ceux qui ont les moyens aident ceux qui n'en ont pas. Notre plus grand souhait présentement, c'est de trouver l'eau et de vivre en quantité suffisante pour subvenir aux besoins de nos familles.
Plus de 2000 personnes en provenance de Tamalaulaou sont arrivées à Abala la semaine dernière où les services de l'État s'activent à les recenser. Alfari Boubacar, directeur départemental de l'agriculture, également point focal du comité chargé du recensement des déplacés d'Abala, nous dresse le bilan de ces arrivées.
Globalement, nous avons 285 chefs de ménage recensés, répartis comme suit. 223 à Tamalaulaou, 62 à Ganjine, composant ainsi 2493 personnes. Pour les enfants ayant moins de 5 ans, il est dénombré 582 et 1360 femmes. Le recensement n'est pas terminé. Du fait que les gens sont dispersés par-ci, par-là, ce n'est pas tous qui sont venus à Balak. Certains sont aux alentours de Abala jusqu'à Sanam. C'est ainsi que chaque jour nous recevons de nouvelles personnes qui arrivent.
C'était les propos recueillis par Idrissa Guerro. Ce 22 avril est célébrée la 50e journée internationale de la Terre qui intervient dans un contexte de pandémie au coronavirus COVID-19. À travers cette journée, l'Organisation des Nations Unies, initiatrice de cette commémoration, veut mettre l'accent sur l'importance de la biodiversité, à la fois indicateur de la santé de la planète, mais aussi une solution efficace contre les épidémies. Les détails avec Rahila Toussoumana.
Au plan mondial, la maladie à coronavirus pose un risque de santé publique, mais aussi pour la biodiversité, qui, selon les Nations Unies, représenterait une solution efficace contre les épidémies. Selon l'organisation onusienne, la diversité des espèces rend plus difficile la propagation rapide d'agents pathogènes. Cependant, les perturbations environnementales provoquées par les activités humaines qui touchent celles-ci, comme la déforestation ou encore le commerce illégal des espèces sauvages, par exemple, rend vulnérable notre planète. C'est pourquoi, pour assurer le bien-être des êtres humains et celui de la Terre, la communauté scientifique rappelle l'importance d'agir contre l'appauvrissement des espèces animales et végétales menacées d'extinction, estimées aujourd'hui à environ 1 million. Pour l'ONU, l'humanité doit gagner la bataille contre la propagation du COVID-19 et les conséquences de la pandémie, car notre action ou inaction durant cette période définira désormais notre sort et celui de la Terre.
Mamichou, pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi? Il fait nuit.
J'ai peur, Mina. Mon papa est fâché contre moi parce que j'ai appelé le 15.
Mamichou, c'est quoi le numéro 15?
Tu sais, je regardais la télé quand j'ai entendu qu'il faut appeler le 15 si une personne est malade. Et ma mamie, elle est malade. Elle tousse. Elle a la fièvre, les maux de tête, elle a mal partout et elle est même tombée.
Tu aurais dû appeler ton papa ou ta maman.
Mon père est parti au service, ma mère est partie acheter les condiments. Il n'y a personne à la maison et je ne connais pas leur numéro de téléphone. C'est le numéro 15 qui est facile pour moi et j'ai peur pour mamie.
Mais qu'est-ce qui s'est passé après?
Un tonton m'a répondu, m'a demandé notre quartier. Je lui ai expliqué. Ils sont venus vite prendre ma maman. Dans une grande voiture avec des feux rouges en haut.
J'ai écouté avec intérêt tout ce que tu viens de dire à ta sœur. Mais ma fille, tu as d'ailleurs bien fait. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si tous les enfants ont ce même réflexe, je suis sûre que le coronavirus allait faire moins de victimes dans nos maisons.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Selon le rapport UNICEF 2016, le Niger est le pays où on enregistre le plus fort taux de mariage des enfants au monde. Une proportion de 115% des filles est mariée avant leur 18e anniversaire. 28% d'entre elles sont même devenues des épouses avant leur 16 ans. Cette pratique est particulièrement ancrée dans les familles défavorisées, issues des communautés rurales souvent peu éduquées. Cependant, à Niamey, de nombreux jeunes scolarisés sont en couple avec ou sans le consentement des parents, ce qui est qualifié par certains d'amour scolaire, suivant le reportage de Habibou Garba.
Nous sommes à l'école CS Kouarkan Nord de Niamey. C'est l'heure de la récréation. Les élèves sont éparpillés dans la cour. Sous un manguier, Chafa Atou, jeune fille de 15 ans, et ses amis discutent de leurs petits copains. La jeune Chafa Atou parle de son expérience et ses perspectives avec son petit ami dont elle a préféré taire le nom.
Les mecs d'aujourd'hui, tu peux rien faire. Même si tu les aimes pas, tu peux pas les dire, mais quand même, ils essayent de courir après toi. Bon, comme je suis très jeune, et petite, comme je fais la classe de 5e, je ne peux pas approcher ça aux parents. Et je ne sais pas si aussi les mecs sont sérieux ou bien c'est déjà des mecs qui profitent avec des filles seulement. Si il est sérieux vraiment, je peux le garder. En même temps, je fais les études. Comme ça, à l'âge de 18 ans, je peux le présenter à la famille. Comme ça, il peut sortir. J'aurai un mari.
Et oui, le mariage, c'est le rêve de tous les jeunes filles et garçons. C'est pourquoi Khadija a informé sa grande sœur de sa relation amoureuse avec Mohamed, son voisin du quartier. Khadija nous raconte sa vie de couple.
J'ai un petit copain depuis l'âge de 15 ans. En 7 ans, je faisais la 4e. Il m'a vu, après il a envoyé ses amis auprès de moi pour me déclarer son amour. Au début, je ne l'adresse même pas la parole. Mais petit à petit, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. On cause tout le temps. Mes amis sont au courant et j'ai informé ma grande sœur. Elle m'a rien dit. Mais elle m'a juste conseillé de ne pas faire une relation amoureuse en cachette.
Pour Hamsatou, grande sœur et tutrice de Khadija, c'est pour permettre à sa cadette d'avoir une notion sur la vie en couple qu'elle l'autorise à côtoyer les garçons. Mais pas question de s'éloigner de la maison.
Elle a l'âge de fréquenter un garçon, je ne peux l'en empêcher. Mais tout doit se faire sous mes yeux. Je ne peux la donner en mariage que lorsqu'elle aura l'âge de se marier. Ainsi, je l'aurai protégée contre les maladies liées au mariage précoce. Je compte célébrer son mariage quand elle aura l'âge de 18 ans. Si j'essaye de l'empêcher d'avoir un petit copain, elle peut se rebeller et aller faire des dégâts dehors.
Selon des observateurs, ce phénomène gangrène les grandes villes de nos jours. Une situation qui peut conduire au mariage précoce, forcé surtout.
C'est la fin de ce journal. Merci de suivre les programmes du studio Kalangou. Le processus d'élaboration et d'adoption des textes de loi sur la sécurité intérieure du Niger. C'est le thème du forum aujourd'hui avec Alassane Kouzi Mahamadou.